Chapitre 23. Il ne croyait pas si bien dire. Jamais de ma vie je n'avais fait de tels rêves. La soupe m'avait fait du bien, mais j'aurais juré qu'elle avait été cuisinée par de mauvais génies. Ma nuit fut entrecoupée, chaotique, et pourtant je ne parvenais pas à sortir de ce sommeil agité. Les taches d'humidité des murs devenaient des visages difformes. Les personnages de mes rêves ouvraient la bouche pour parler et j'y voyais des crocs. Je m'enfuyais, mais me retrouvais dans des cimetières géants où des anges de marbre pleuraient. De vraies larmes coulaient sur leurs joues glacées et j'entendais leurs lamentations et les gémissements des morts. Je fis un effort pour me réveiller. Étais-je devenu fou comme ma pauvre mère? M'obligeant à sortir du lit, j'avançai sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre. Dehors, c'était le calme absolu. Le jour commençait à poindre. Un renard traversait la pelouse en secouant la rosée de son pelage. Dans le lointain, des hiboux ululaient. L'angoisse céda peu à peu. Je me lavai la figure avec l'eau du broc que je trouvais devant ma porte. Puis, j'enfilai mes vêtements, longeai le minuscule couloir et descendis les trois sentiers qui aboutissaient à la petite porte ronde. Je la franchis et débouchai sur le grand palier. J'étais donc dans la maison où ma mère avait passé son enfance, une maison qui m'était à la fois familière et inconnue. Les coffres en bois verni étaient les mêmes que dans la maison de poupée, et bien que les couleurs des tapisseries ornant les murs eussent tourné au gris pâle, au gris sale, je distinguais le cerf aux abois et la cascade dont je me souvenais parfaitement. En commençant à descendre l'escalier tournant, j'eus la surprise de voir mon image dans des miroirs sales. Ainsi quelque chose avait donc changé. Dans une maison de poupée, tout le long du mur de l'escalier, étaient accrochés de petits portraits. Une femme berçant un enfant, un beau garçon solidement bâti, une jeune fille en robe blanche. Ils avaient été remplacés par un fatras de tableaux champêtres et de miroirs disparates. Autour de certains cadres, le mur présentait des carrés de couleurs plus sombres en lieu et place des tableaux disparus. Pourquoi ces portraits avaient-ils été enlevés? Je me dis que mon oncle ne voulait peut-être pas de ces tableaux qui lui rappelaient à tout instant sa solitude, à moins qu'il n'eût suspendu les portraits de ceux qu'il avait aimés dans sa propre chambre, afin de pouvoir les contempler plus souvent. Le changement, quelle qu'en fût la raison, avait été radical. Je passai en revue tous les murs, ceux du vestibule, puis ceux des pièces du rez-de-chaussée, examinant les cadres un à un. Des miroirs encore et des scènes, représentant un troupeau au crépuscule, des fleurs et des fruits en quantité suffisante pour nourrir une armée entière et décorer 12 tables de mariage. Mais pas un seul portrait. Un minuscule cliquetis se fit entendre. Je poussai la porte du couloir menant à l'office, et là encore je constatais d'importantes différences. Ce couloir, si gai dans ma maison de poupée, baignait ici dans un vert sinistre. Et au bout du couloir, la cuisine inondée de lumière où sous mes doigts, mes poupées maniaient maladroitement poêles et casseroles, devenaient dans ce monde réel froide et sombre comme une caverne, avec des murs que l'humidité recouvrait de cloques et d'auréoles noires, et des plats ébréchés empilés n'importe comment sur le grand buffet. J'y entrai sans bruit, il n'y avait personne. Mais la porte de derrière était entrebâillée. Une aubaine. La cuisine de ma maison de poupée ne donnait que sur une mer de tapis, ou sur le papier peint du mur contre lequel elle était installée, et ma mère ne m'ayant jamais parlé des endroits où elle jouait, je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait derrière la maison. La curiosité me poussa à avancer. Je découvris une cour pavée, traversée de cordes à linge et entourée d'appentis en ruine. Ne voulant pas être surpris en train de fouiner dans les réserves ou les caves à charbon, je franchis un porche sur le côté de la cour, pensant faire le tour de la maison et retrouver l'étrange vision de la veille au soir, une demeure que je connaissais par cœur se dressant dans sa taille réelle, sur fond de vrai ciel, au milieu d'un vrai domaine. Mais, contrairement à ma jolie maison de poupée, si pourrie et délabrée qu'elle semblait ne tenir debout que grâce aux lierres qui l'enlaçaient. À ce moment, j'aperçus une ombre entre les arbres. Un homme. Pendant un instant, je pensais que ce pouvait être mon oncle, qui se serait levé encore plus tôt que moi. Mais lorsque la silhouette s'arrêta, je vis que l'homme portait sur l'épaule une binette. Il avait une barbe grisonnante comme celle du capitaine, mais il était de plus petite taille, à peine plus grand que moi. À mesure que je m'approchais, il reculait, comme s'il espérait que j'allais le laisser se fondre dans l'obscurité du bois, mais je m'entêtais, car cet homme me dévisageait avec la même stupeur que Martha la veille. Et le désir profond de résoudre le mystère attaché à mon existence, où j'étais, qui j'étais, et pourquoi les choses s'étaient passées ainsi, me donnait de l'audace. Je sentais qu'à cet instant, le hasard m'offrait une première occasion d'enfoncer cette porte qui s'était refermée sur mon passé. Parvenu tout près de lui, je m'enhardis à lui demander « Dites-moi, est-ce que je ressemble tant que cela à ma mère ?» Il continua de me fixer sans bouger, mais ne dit pas un mot. Je persévérais. « À voir votre tête, la mienne ne vous est certainement pas inconnue. » Toujours aucune réaction, seulement ses deux yeux gris, figés dans une attente polie et silencieuse. Décidé à insister, je le provoquai encore. « Et je suis sûre que vous avez connu ma mère !» Là, il se redressa, comme sous l'effet d'une décharge électrique. Mais lorsqu'il répondit, ce fut assez calmement. « Oh oui, j'ai bien connu ta mère. Très bien même. » Une bouffée de colère monta en moi, sans que je ne sache pourquoi, parce que j'avais l'impression que tout le monde en savait plus que moi sur ma mère. Ce sentiment oppressant me rendit insolent. Me surprenant moi-même, je penchai la tête comme une fille et redemandait effrontément « La ressemblance est-elle si frappante ?» Et cette fois, le choc fut pour moi, car je vis bien qu'il se retenait pour ne pas me gifler. Il parvint à se contrôler et admit avec une moue dédaigneuse « La ressemblance est aussi parfaite que possible. À ceci près qu'elle était d'une beauté et d'une gentillesse irréprochables, alors que toi, tu m'as tout l'air d'un jeune blanc-bec sans cervelle. » Sur ce, il s'éloigna à grands pas, me laissant tout honteux, incapable de lui courir après avec d'autres questions, comme s'il m'avait laissé m'engluer dans une boue aussi épaisse que son mépris.